OK, ben quoi qu'on fasse vendredi, Audrey, avec les deux billets de l'Automax qu'on va acheter, je te garantis qu'on sera pas millionnaire.
Non, ben là, je pense que tant qu'à avoir 5 piastres chaque, on est aussi bien de laisser tomber le projet.
Non, tu vas payer pareil.
Ah ouais?
Non, c'est une promesse. Bon. On n'a pas le choix, ça va être à la gang.
On va le faire.
Au pire, on se fera un gros party avec le 50 cents qui nous restera.
C'est ça. Tu m'enverras la photo officielle de toi et le billet, je vais la mettre sur nos réseaux sociaux.
Oui.
Pour que tout le monde voit qu'il n'y a pas de tricherie ici, puis
exact.
On va faire ça.
C'est 1 degré sur Québec, c'est pluvieux dans la région de Québec. Est-ce qu'on mentionne. C'est peut-être en hauteur, peut-être un peu de neige. On parle de 5 cm pour aujourd'hui en terrain montagneux. Maximum de plus 3 degrés. Ce soir, cette nuit, des averses. 2 cm, c'est ce qu'on nous mentionne pour ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, un ciel dégagé, maximum de plus 4 degrés. En soirée, de la neige intermittente, minimum de moins 4 degrés. Vendredi, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 1.
Capitale, direction ouest, juste avant la bretelle pour Henri IV Nord. La voie de droite qui est bloquée. Il y aura un accident dans ce coin-là. Si vous avez des détails, 971-102-1 texto.
10h34, on reçoit Caroline Ménard, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Salut Caroline!
Salut!
Merci d'être là avec nous. C'est super sympathique de ta part de t'être déplacée. Vous faites des recherches sur le stress?
Oui. D'abord, ça me fait plaisir que vous m'ayez invité. Vous êtes le poste de radio que j'écoute depuis que je suis arrivée à Québec il y a 7 ans maintenant.
C'est donc belle fois!
Ouais, j'étais super excitée de vous, que vous m'invitiez.
Ah, j'aime ça!
C'est-tu pour Reg? C'est-tu pour Denis? C'est-tu
vous êtes tout le temps dans l'auto en général.
C'est vrai?
C'est vraiment le fun, ça!
qui dit plus de niaiseries?
Ah, ça dépend de combien de café qui a été pris, je pense.
Ouais.
Ça dépend des jours, ça dépend
des sujets. Le sujet est intéressant quand je me suis emmenée tantôt.
On va essayer d'être intelligent pour les prochaines minutes, Caroline. Comment t'en es venue à décider de faire des recherches sur le stress? Parce que le stress, on dirait que c'est mondial. Là. Il y a certains endroits dans le monde où les gens semblent peut-être un peu moins stressés, mais ils peuvent être anxieux aussi. Mm. Ça peut être une forme de stress. Ouais. Comment t'en es venue à t'intéresser à ça?
Bien, nous, on s'intéresse à la biologie qui est en arrière du stress. Donc, on s'intéresse beaucoup à savoir pourquoi il y a des gens qui sont vulnérables, qui vont développer un trouble de l'humeur comme la dépression, mais pourquoi il y a des gens qui sont résilients, parce qu'on est tous stressés, comme tu viens de le mentionner, mais c'est pas tout le monde qui va développer une dépression. Fait qu'est-ce qui nous rend résilients ou qu'est-ce qui nous rend plus tendance à être déprimés? Puis des fois, il y a des mêmes personnes qui peuvent être très résilients pendant longtemps, puis éventuellement devenir déprimés. Fait qu'on s'étudie la biologie derrière ça.
C'est quoi la différence entre le stress puis l'anxiété? Tu sais, Anne, t'as nommé les deux, mais on se fait souvent dire que c'est pas la même chose, puis c'est pas les mêmes réactions sur le cerveau.
Non, puis nous, on s'intéresse beaucoup au stress chronique. Donc, c'est important de faire la différence entre un stress aigu, parce que du stress aigu, par exemple, être pris dans le trafic ou faire une présentation, on a une forme de contrôle sur la situation, puis ça dure un certain temps, c'est assez limité. Comme moi ici qui vous parle, là, pendant 20 minutes, je suis arrivée des papillons dans l'estomac, mais après ça, je vais me retourner, ça va retomber à la normale.
C'est un stress passager.
C'est ça, mais le stress chronique qui va durer longtemps, qui va être sur une longue période, sur lequel on a peu de contrôle, puis aussi qui va créer de l'insécurité, ou qui va être très imprévisible, c'est là qu'on a des dangers d'aller vers une dépression ou plus développer un trouble anxieux.
Est-ce que le stress a une fonction qui peut être positive chez l'être humain?
Oui, d'habitude, quand je donne des présentations, c'est la dernière diapo. Moi, je suis une personne optimiste dans la vie. Le stress, c'est pas juste négatif, ça nous aide à survivre.
Ouais.
C'est important de faire face au stress pour développer des stratégies aussi quand on fait face à l'adversité. Donc, si jamais on vit une situation comme la perte d'un proche, perte d'un emploi, un divorce, si on n'a jamais vécu de stress, on ne sera pas préparé à faire face à ça. Ça nous a aussi aidé à survivre comme espèce. Donc, toute la mécanique de est-ce qu'on combat ou on fuit. Par exemple, si on vit, on est en camping, on entend un ours, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le stress nous prépare à ça.
On arrive tout le temps, quand il y a des possibilités d'avoir des ours autour, là, on arrive tout le temps avec quelqu'un qui court moins vite.
Idéalement.
C'est celle-là que tu laisses derrière.
C'est ta chance de survie.
C'est ce qui fait la différence entre le stress et l'anxiété sur le moment.
Oui. Vraiment un camping dans deux semaines, Audrey, je souviens.
C'est toi que je laisserais derrière. C'est ça, je te laisse en arrière. Comment ça fonctionne chimiquement dans le cerveau? Là, ça a toujours fait partie de nos vies, le stress ou l'anxiété. Ouais. Bref, ça se développe de façon plus profonde. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait que le cerveau sonne la cloche d'alarme, là, que tu ressens tout d'un coup justement ces papillons-là, puis cette espèce de cœur-là qui bat plus fort.
Notre cerveau est vraiment équipé pour répondre au stress. Ça, c'est l'évolution. Donc, toutes les espèces ont une réponse au stress. Nous, on étudie beaucoup la souris, par exemple, puis c'est les mêmes régions du cerveau que chez l'humain, que chez les primates qui vont réagir au stress. Donc, c'est sûr que les neurones vont jouer un grand rôle. Ils vont permettre la relâche d'hormones, les hormones du stress, qui vont permettre aux autres organes, justement, le cœur va battre plus vite, on va relâcher de l'adrénaline, donc on va réagir au stress. Mais nous, on s'intéresse à d'autres systèmes. Donc, on a commencé à voir le stress en dehors de la boîte noire, là, qui est le cerveau. Puis on s'intéresse beaucoup au système immunitaire, même le microbiome, là, les bactéries qu'on a dans notre intestin, puis beaucoup la barrière du cerveau aussi qui protège là, contre l'inflammation.
C'est vrai que c'est le deuxième cerveau,
le microbiome.
Le microbiome. On entend souvent ça. Ouais. Je dis ça à Yann depuis deux semaines. Je suis à moitié sûre de ce que je dis. Là. J'y vais bien confiance qu'il me croit.
Tu fais juste répéter ce que tu entends.
Ben oui, j'ai l'air intelligent dans ce temps-là. C'est ça qu'on fait à Radio à Québec. Là. C'est pas nouveau. Là.
Mais le microbiome, c'est super intéressant. Moi, quand j'étais étudiante, personne ne parlait de ça. Puis de plus en plus, on s'y intéresse. Il y a vraiment de la recherche qui a été faite à plein de niveaux, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, mais aussi le stress. Donc, quand on est stressé, les petites bactéries qui sont dans notre intestin, les populations vont changer. On va avoir des populations qui vont relâcher plus d'inflammation, puis ça va avoir un impact sur notre humeur aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'on se dit, comme nous, on étudie par exemple l'exercice physique, on donne des roues d'exercice à nos souris pour voir si ça promouvoit la résilience, la santé vasculaire, et une diète, par exemple, parce qu'on pourrait jouer avec la diète pour faire de la prévention là, pour l'anxiété et les troubles de l'humeur.
Quand on regarde moi, je regarde souvent des documentaires là, impliquant des animaux, je triple là-dessus, puis quand je fais du ménage chez nous, ben, je mets ça à télé, puis j'en apprends peut-être un peu plus. Puis, tu sais, on dit que le stress, bon, autant dans le monde animal que chez les humains, il existe. Chez les animaux, il semble plus constant parce que ça dépend de leur survie. Par exemple, ce qui s'apparente à être des chevreuils en Afrique, c'est pas des chevreuils, là, il y a un autre nom pour ça, mais ils sont constamment en mode alerte à regarder s'il n'y a pas des prédateurs qui s'en viennent pour leur sauter dessus. Puis pourtant, eux, ils semblent pas mourir du cancer. Là. Puis chez les humains, on dit... Le stress, là, on dirait que ça peut t'amener au cancer. C'est-tu vrai?
Bien, en fait, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est aussi l'évolution, le stress, comment ça a changé. Donc, le monde dans lequel on vit est extrêmement différent de 100 ans. Ouais. On vit dans des conditions où maintenant on a des antibiotiques, on vit plus vieux. On a aussi un système de santé qui nous permet de vivre plus vieux, mais notre biologie n'a peut-être pas évolué aussi vite. Donc, on pense qu'il y a un aspect évolutif au stress que, par exemple, quand on est pris dans le trafic, notre système veut combattre ce stress-là, puis il va activer plein de systèmes, alors que c'est pas une situation aussi critique que l'antilope qui se fait courir par un lion en Afrique.
Non, c'est ça.
Mais le cerveau de l'antilope, c'est le même cerveau un peu que nous autres, il réagit de la même façon.
Oui. Est-ce que, c'est parce que sa vie en dépend constamment. Nous autres, notre vie n'est pas si en danger que ça. Là. Fait que peut-être qu'il y a le stress qu'on avait à l'époque de on va-tu manquer de nourriture, on va-tu manquer la température, est-ce qu'elle est adéquate, parce qu'on n'avait pas les radars qui faisaient le travail pour nous dire voici demain quel genre de température tu vas avoir. Les habitations aussi se sont beaucoup améliorées. Fait que tu pars plus au vent. Tu sais, il y a des choses qui ont progressé chez l'être humain, puis les animaux, mais sont toujours restés comme à la base, c'est-à-dire le stress, c'est une fonction qui leur permet de rester en vie face aux prédateurs. Nous autres, on a bifurqué sur d'autres choses. Est-ce que vous avez étudié, je dis vous, mais toi et ton équipe, Caroline, est-ce que vous avez étudié les différents pays? Pourquoi il y a des endroits où les gens semblent pas être stressés du tout? Puis en Occident, nous autres, c'est le stress à côté, avec des médicaments à côté, avec des dépressions à côté. C'est sûr que bon, t'as pas grand espoir quand t'es assis sur une roche tout au long de ta journée puis t'attends de voir s'il y a quelque chose qui va arriver, là. Mais pour nous autres, c'est-tu le fait qu'on soit tellement dans le confort qu'on a comme développer ces problématiques-là?
Bien, il y a plein de réponses à cette question-là. D'abord, la prévalence, l'incidence, le taux de dépression, là, partout dans le monde, c'est à peu près la même chose. Sur une année, c'est 5 à 7 des gens qui vont avoir un diagnostic de dépression majeure.
Fait que c'est donc, pas l'Occident qui
trône au sommet. C'est pas seulement l'Occident.
Ah, ouais.
Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens vont pas rapporter les mêmes symptômes. Aussi, même quand on parle d'un enfant qui est stressé, il va dire « j'ai mal au ventre », alors qu'un adulte va dire « je me sens stressé », il va exprimer mieux, alors qu'une personne âgée peut dire « j'ai des problèmes de mémoire ». Donc, le stress va s'exprimer différemment de l'âge, mais aussi des populations. Au niveau des populations asiatiques, vont aussi plus parler des problèmes de mémoire. L'autre chose, c'est qu'on est plus sensibilisé aussi au stress. Il y a plus de gens qui en parlent. Une des choses qui nous intéresse beaucoup en nous, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Il y a deux fois plus de femmes qui ont un diagnostic de dépression majeure. Mais une question, c'est est-ce que les femmes vont chercher plus d'aide?
Donc, c'est parce qu'on endure les hommes. Hein, c'est difficile.
C'est à cause de nous autres.
Ouais, c'est tout le temps à cause de nous autres. Moi, mon stress général, c'est parce que je travaille avec toi, je travaille avec Denis, je suis épuisée. C'est une statistique qui fait du sens, ça, Caroline.
Elle, son stress, c'est le fait qu'on n'est pas assez stressé. Fait qu'elle stresse encore plus pour nous autres. Elle essaie de compenser.
C'est vrai.
Mais c'est super différent. Le stress, les hommes, souvent, ce qui va les mener à la dépression, c'est un événement majeur, comme une perte d'emploi ou un divorce.
Ouais.
Les femmes, c'est l'accumulation des stress de la vie tous les jours. Donc,
avoir des petits stress tout le temps.
Peut-être aussi, on accumule des petits stress avec les obligations de travail, famille, tout ça qui s'accumule. Là. Fait que c'est différent la manière qu'on le vit.
Yann, tu parlais de partout dans le monde, tu sais, puis je me demande si le stress joue sur l'espérance de vie.
Oui, c'est une bonne question. En fait, le stress aigu, il y a des espèces animales que ça les fait vivre plus vieux. Donc, c'est vraiment le côté chronique qui est important, là, que quand ça devient trop incontrôlable, trop long, qu'on perd ça devient trop imprévisible, c'est là qu'il faut faire attention pour que ça devienne négatif. Mais aigu, ça peut être bon. Parce que quand on pense, par exemple, une histoire, on se perd en voyage, on est super stressé sur le coup, mais c'est la bonne histoire qu'on raconte. Puis le stress, ça nous aide aussi à se dépasser. Il y a des gens qui vont faire des courses, des Ironman, ou qui vont escalader une montagne, ils vont vivre du stress, mais après ça, ils vont se dépasser, ils vont être fiers d'eux autres.
Il y en a qui chassent ça, en fait, cette espèce de petite adrénaline-là en dedans. Puis moi, j'entends souvent dire le jour où je serai plus stressée, mettons, dans mon emploi ou dans ma passion, c'est parce que ça sera plus pour moi quelque chose à poursuivre. Il y en a qui ont besoin de ça et qui carburent à ça.
Ça aide à se dépasser. Ouais.
Fait que le stress peut avoir une incidence sur ta qualité de vie, puis pour ton espérance de vie.
Oui. Bon, puis en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont des conditions, par exemple, qui ont de l'inflammation, ça peut être de l'obésité, un cancer, c'est un bon exemple. Même les maladies cardiovasculaires, c'est des gens qui vont avoir plus tendance à développer une dépression. Et à l'inverse, les gens qui ont une dépression vont plus développer ces maladies-là. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre la biologie entre les deux, parce qu'on pense pas que c'est aussi simple que, par exemple, j'ai fait un accident cérébrovasculaire, j'ai perdu un peu de fonction motrice, je deviens déprimée, c'est à cause de ça. On pense qu'il y a de la biologie en arrière.
Fait que profite du temps qui te reste, Audrey.
Oui, c'est ça que je suis en train de me dire. Là, je m'évalue, là. Comment on explique la différence entre les gens donc, qui développent l'anxiété puis les symptômes dépressifs, puis ceux qui ont cette fameuse grande résilience-là, dis-je mal?
Oui. Bien, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce qu'on a observé, c'est qu'on utilise un modèle animal de stress social. On fait de l'intimidation sociale chez la souris. On a observé que les souris qui deviennent déprimées, c'est à peu près 2/3, ils vont avoir une fragilité au niveau de la barrière qui protège le cerveau. Puis quand on est stressé de façon chronique sur une longue période, notre corps réagit, on a plus d'inflammation qui circule. Puis cette inflammation-là va passer par les petits trous de la barrière puis rentrer au niveau du cerveau. Fait que nous, ça, c'est un des travaux que j'ai fait quand j'étais à New York, là, avant d'arriver ici à Québec. Puis quand on est arrivé à Québec, une question qu'on s'est demandé, mais c'est celles qui sont résilientes, c'est quoi qui se passe? C'est quoi la différence? Comment ils résistent? Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un système qui est activé, le système des endocannabinoïdes, chez ces souris-là qui sont résilientes.
Ça, c'est quoi en français, mettons, là?
C'est en français. C'est le système des cannabinoïdes. Donc, c'est le même système pour ceux qui consomment ou qui connaissent le cannabis. C'est le même système sur lequel la plante, les ingrédients actifs vont agir.
Ah, oui.
Mais c'est le système de cannabinoïdes à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit endocannabinoïdes. Parce que ce système-là va être activé, par exemple, par l'exercice physique ou encore la douleur.
Pourquoi on fait les tests sur les souris, principalement?
C'est surtout parce que l'expérience humaine est très complexe. Alors que l'expérience d'un animal qu'on achète en laboratoire vont avoir la même diète, vont vivre dans le même environnement, vont avoir les mêmes conditions là, au niveau d'avoir une cage, un jouet, des amis, toutes ces choses-là. Alors que l'expérience humaine est hyper complexe. Il y a des gens qui vont vivre beaucoup d'adversité en bas âge. Il y a des gens qui vont vivre du stress à l'adolescence avec de l'intimidation. Donc, quand on accumule toutes ces différences-là, c'est quand on regarde les échantillons humains, nous, on travaille à la fois chez des souris, chez des échantillons dans des pétris, là, dans de la culture, là, des cellules, mais aussi sur des cerveaux humains. On a accès à des cerveaux humains pour vérifier ce qu'on trouve chez la souris, chez l'humain aussi.
Ah oui? Mais comment vous faites ça chez les cerveaux humains?
On a des banques de cerveaux. On a une ici à Québec.
Banques de cerveaux?
Oui. Il y a des gens qui généreusement font don de leur cerveau. Nous, on travaille beaucoup aussi avec l'hôpital Douglas à Montréal. Ils ont des gens qui sont suicidés. Puis ces gens-là, eux-mêmes ont donné leur consentement pour donner leur cerveau à la science ou la famille a choisi de le donner pour la recherche.
Attends une minute. Fait que là, t'as comme plein de cerveaux que vous gardez vivants, mettons.
Non,
vous...
pas vivants, mais ben, qu'on garde conservés. Ouais.
C'est ça, conservé actif, là, pas nécrosé, mettons. Là.
Oui, fait que si on voit, par exemple, la barrière est plus fragile chez la souris, on peut faire du défrichage, trouver des nouveaux mécanismes chez la souris. Puis après ça, on vérifie avec nos collaborateurs là, dans les cerveaux humains. On a accès à du sang aussi, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des biomarqueurs. Faut savoir qu'une des questions aussi, pourquoi c'est dur de diagnostiquer la dépression, c'est qu'on fait encore ça en 2025 avec des questionnaires. On n'a pas de biomarqueurs comme pour le cancer, les maladies cardiaques. On utilise des questionnaires. Puis si je vous demande à 1 sur 10 comment vous vous sentez aujourd'hui...
Moi, je t'aboute.
Si vous avez de la détresse psychologique, exactement.
Tout ça.
Je trouve que la comparaison, c'est comme de la douleur. Tu sais, une déchet de douleur, 8 ou 9 pour toi, ça peut être très différent pour moi.
Oui, puis c'est spécial parce que tu vois, en consultation, moi, je l'ai déjà fait, cette espèce de petit questionnaire-là.
Ouais.
Puis on m'avait dit que j'étais dépressive, m'a dit que je me sentais loin d'être dépressive. Là. Fait que c'était peut-être juste la journée. Je devais être genre dans mon mauvais cycle, là, t'sais, au mauvais endroit dans mon cycle menstruel. Puis on m'avait dit que non, moi, je filais vraiment pas. Mais c'est ça, c'est que c'est des affaires d'échelle sur 10. Fait que c'est vraiment dur d'en venir à une conclusion.
Mais
là,
le jour où on mettra la main sur ce 10 marqueur-là, ben là, ça pourra pas mentir.
Bien, ça va aussi aider à choisir les traitements parce qu'on a tendance à faire du essai-erreur pour les traitements.
Ouais.
Des fois, les gens, ça va prendre 6-8 semaines avant qu'ils voient des effets positifs. Puis quand ça va pas, t'as pas le temps d'attendre 6-8 semaines. T'en essaies 2, t'en essaies 3. Puis à peu près encore 30 à 50 % des gens qui sont peu ou pas aidés avec avec les traitements qu'on a actuellement. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de penser à l'extérieur de la boîte du cerveau puis d'étudier d'autres systèmes pour mieux comprendre.
Puis là, il y a eu une découverte de protéines clés dans la résilience face au stress. Là, c'est une question de niaiseuse, mais moi, quand on parle de protéines, j'ai un morceau de viande en tête. Là. J'ai vraiment... c'est ça pour moi, des protéines. Oui. Là. Non, mais c'est vrai pareil.
Ouais.
Fait que c'est quoi cette protéine-là clé qui nous amènerait à être plus résilients face
au stress? Moi, je la vois chez Popeye sur l'étagère.
Oui, mais là, j'ai essayé d'être plus accessible, là, tu comprends, dans le quotidien.
Mais c'est qu'en fait, nos gènes, quand ils vont être exprimés, ils vont produire des protéines. Puis par exemple, le cannabinoïde, le récepteur, de la manière que ça fonctionne, c'est que sur la cellule, nous, on s'intéressait à des cellules en petite forme d'étoiles, des astrocytes, c'est pour ça qu'on les appelle astrocytes, qui font partie de la barrière. Puis ces cellules-là vont exprimer des récepteurs, donc on va avoir un petit capteur sur la surface de la cellule. Puis s'il y a des molécules qui circulent dans le sang, comme par exemple du cannabis, du THC, ça va se lier à ce récepteur-là. Fait que la protéine, c'est là vraiment le récepteur qui est sur la surface de la cellule.
OK, fait qu'on peut pas consommer ça, mettons, dans notre nourriture au quotidien. On peut pas ajouter ça à notre quotidien.
Non, notre système en produit naturellement, là, vraiment beaucoup. Okay. Puis nous, ce qui est intéressant qu'on a observé, c'est que les souris résilientes avaient plus de ces récepteurs-là sur ces cellules-là en forme d'étoiles qui font partie de la barrière. Puis c'était plus que les souris susceptibles au stress qui développent de la dépression, mais aussi plus que les contrôles non stressés. Fait que c'est vraiment une adaptation positive pour faire face au stress. C'est pas seulement versus les
cette dépressifs. Étude-là, en fait, elle pourrait vous mener quoi? À faire une nouvelle médication? Une nouvelle...
Ouais. C'est ce qu'on vise, en fait. Puis aussi d'essayer de trouver des biomarqueurs, là, comme j'ai mentionné, là, pour faciliter le diagnostic, le choix de traitement. On est en discussion avec des collaborateurs. Nous, on collabore avec des gens en Europe, des gens aux États-Unis, des gens aussi en Asie, pour essayer de trouver des molécules qui pourraient être spécifiques pour ces récepteurs-là. Parce qu'il faut savoir que quand on fume, par exemple, du cannabis, on active les récepteurs sur ces cellules-là en forme d'étoile, mais aussi sur les neurones. Puis là, on peut avoir des effets secondaires, comme par exemple l'anxiété, des changements au niveau de l'appétit, des choses comme ça.
Plein de questions pertinentes par texto au 88-971-101. Je vous rappelle qu'on est avec Caroline Ménard, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Est-ce que le stress, c'est héréditaire?
Ah, c'est bon ça comme question. En fait, l'environnement a vraiment un gros impact. Des fois, on dit la dépression, c'est dans la famille. C'est pas vrai. C'est parce qu'on a souvent grandi dans la même condition socio-économique. Donc, peut-être l'insécurité. Oui, fait qu'on n'est pas destiné à devenir déprimé si dans notre famille, il y en a beaucoup. Mais peut-être qu'on a vécu de l'adversité en bas âge, des défis, des traumas. Et il faut faire attention un peu plus à ce moment-là. Mais on n'est pas destiné à devenir déprimé. C'est pas génétique.
Fait que c'est plus qu'on répète des comportements qu'on a peut-être vus chez notre parent que le fait que... Parce que j'ai tellement entendu ça souvent, là. Ouais, mais là, moi, mon père, mon arrière-grand-père, tout le monde était dépressif dans la famille, fait que moi aussi, là, je fais le pas facilement, puis je me disais, mon Dieu.
Mais c'est souvent aussi si, par exemple, on a grandi avec de l'insécurité alimentaire, on a grandi dans des conditions économiques plus difficiles. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça. Peut-être que notre biologie va être un peu différente. Mais il faut savoir que notre cerveau s'adapte hyper bien, tout comme les autres systèmes. C'est très plastique. Donc, il y a des choses à faire pour ramener ça, là, d'un côté plus positif. Mmh. Par contre, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, là, quand ça va pas. Faut pas juste essayer de s'en sortir tout seul. Avec, par exemple, l'exercice physique, la diète, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide quand ça ne va pas.
L'être humain agit par mimétisme aussi. Là, si tu as vu ta mère constamment stressée, puis ta mère, c'est un modèle, je veux pas, que tu le veuilles ou pas, ta mère, c'est ton premier modèle, ou ton père, c'est ton premier modèle. Si tu l'as vu tout le temps stressé, tu agis par mimétisme. Là.
Ouais.
Tu grandis avec le stress que ta mère a, puis elle le transfère sur toi probablement, puis c'est contre son gré, bien entendu.
Oui, puis c'est pour ça que c'est important beaucoup de parler de santé mentale, parce qu'on se rend compte aussi que quand on parle avec les autres, chacun des stratégies pour faire face à l'adversité, puis au stress. Il y a aussi, on se rend compte en parlant, que parfois, des gens qu'on côtoie tous les jours vont prendre une médication, mais personne n'en parle tant que ça. Donc, en parlant, on enlève le stigma, puis on se trouve des meilleures stratégies aussi, comme, non seulement comme humain, mais comme société, comme, comme communauté.
J'ai envie de te poser la question, juste parce que ça sort beaucoup sur le Twitch, entre autres. Il y a des gens qui disent, hey, mon Dieu, mon médecin m'a dit pourtant que c'était héréditaire. Comment vous avez découvert que ce l'était pas? Y a-t-il quelque chose qui prouve, en fait, que ce l'est pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des professionnels de la santé qui passent ce message-là, en fait.
Oui, bien, en fait, c'est qu'on n'a pas un gène pour la dépression. Comme il y a des gènes, par exemple, pour le cancer du sein, qu'on sait que si on l'a, on a un pourcentage de plus de chances de développer le cancer du sein. Ça, ça n'existe pas pour la dépression. Ça peut être une accumulation de petits changements au niveau des gènes, mais on n'a pas un gène de la dépression là, qui prédestine. Fait qu'on, nous, on pense que c'est peut-être au moins quasiment deux tiers de l'environnement là, qui vont contribuer. Puis c'est sûr que oui, on peut être un peu plus vulnérable, mais on n'est vraiment pas destiné. C'est ça le message que je veux que les gens retiennent.
Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il y a des moments peut-être un peu plus stressants de nos vies, on a le goût, en arrivant à la maison, de se couler un bon verre de vin?
Ouais.
De prendre un bon bain, de prendre de la Coors Light. Il y en a d'autres qui vont dire, là, moi, il faut que j'aille courir, puis ils vont faire un 42 km, puis ils vont revenir à la maison, puis ils vont avoir diminué leur stress, mais le lendemain, ils vont souffrir le martyre.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gère notre stress de cette façon-là? Est-ce qu'on l'a toujours fait depuis que l'humain est humain? À chaque fois qu'il y avait des périodes stressantes, il essayait de compenser par d'autres choses?
Ouais, c'est une question que je me fais souvent poser. C'est quoi la recette de la résilience? Puis je pense que chacun a un peu sa recette personnelle. Ça dépend c'est quoi les activités que vous aimez faire. Une de mes collègues, Sonia Lupien, qui est à l'Université de Montréal, a dit des fois, ça prend juste un 15 minutes qu'on se donne à soi-même. Ça peut être un long bain, aller faire un jogging. Moi, personnellement, ma recette, c'est j'ai commencé à faire du sport plus depuis que j'étais à Québec. À New York, c'était difficile de sortir de l'île. Je fais du vélo de montagne l'été. J'ai commencé l'été passé, du ski de fond l'hiver. J'aime ça aussi jouer à des jeux vidéo. En ce moment, je joue à Sea of Stars, qui a été fait ici à Québec.
Oui.
Ils ont même une version québécoise qu'on a commencé. Ah, c'est fabuleux. Avoir des points de vie, de la poutine puis du pudding chômeur, ça fait ma soirée.
Génial.
Puis aussi la musique. Nous, on aime beaucoup aller voir des shows live. On va à l'Anti à peu près à tous les mois, voir la musique puis se défouler dans un mosh pit, là, ça fait du bien fait aussi.
Que vous gérez votre stress de cette façon-là. Mais l'humain a toujours fait ça.
Je pense que oui. Puis aussi, toutes les relations sociales, ça joue beaucoup aussi sur comment on gère le stress. Je pense de se retrouver autour d'un feu à l'époque peut-être, ou ramasser des fruits ensemble. Ça a toujours été dans la nature humaine, je pense, les relations sociales. On voit que les gens qui ont beaucoup de relations sociales, qui parlent, qui partagent, vont souvent être des gens qui vont avoir un niveau de stress qui peut être élevé, mais ils vont bien le gérer.
Au niveau de la cognition aussi, moi j'ai côtoyé les personnes âgées pendant la pandémie.
Ouais.
Puis à un moment donné, on les interdisait de sortir de leur logement, tout simplement. Ils devaient rester constamment dans leur logement. Fait que moi, je leur avais jasé la semaine 1, exemple. Puis là, je leur voyais comme un mois ou, mettons, 6 semaines plus tard. Puis je voyais une différence entre la personne qui s'était présentée devant moi puis la personne qui avait été isolée pendant 6 semaines. Au niveau cognitif, là, ce n'était plus la même personne.
Oui, puis ça, on le voit nous-mêmes chez les souris. Tu mets une souris en isolement pendant seulement quelques jours puis on voit des changements au niveau de la biologie. Ça a un impact majeur. Puis ça peut, oui, se renverser, mais ça reste quand même que ça a des impacts.
Tu parles des souris. Il y a quelqu'un qui nous dit, salut Martin au 971-101, qui dit comment on intimide des souris. Puis j'ai envie de poser la question plus large, en fait. Peux-tu nous expliquer le processus par lequel vous êtes passé avec les souris pour en arriver finalement à vos conclusions de recherche?
Oui, on utilise une souris bully. C'est aussi simple que ça. Donc, on utilise une souris qui est un petit peu plus costaude, un petit peu plus dominante. Ils vont avoir une interaction physique seulement 5 minutes dans la journée, mais ensuite, on les garde dans la même cage, une plus grande cage comme pour hamster. Puis, on met un séparateur en plastique, en plexiglas transparent avec des trous. Fait qu'ils peuvent se voir. C'est vraiment comme dans une cour d'école. Si tu vois le bully au loin, puis c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas quand il va venir pour t'agresser ou t'intimider. Puis les souris vont s'envoyer des signaux, ils vont faire des yeux un peu méchants, ils vont battre la queue. Donc, ils vont s'envoyer des signaux d'intimidation. Puis on voit les souris qui sont plus dominées, ils vont se mettre en petite boule. Donc, on fait ça juste 10 jours. Donc, c'est un stress qui est un stress physique pendant seulement 5 minutes, suivi d'un stress qu'on dit sensoriel, qui est comme psychologique, pendant le reste, parce qu'on voit l'intimidateur à l'autre bout. Puis à tous les jours, il y a un nouvel intimidateur. Donc, la souris change de cage à tous les jours. Puis après 10 jours, bien, c'est ça. On va avoir à peu près 50 % à 2 tiers des souris qui vont s'isoler socialement. Si on leur donne le choix d'avoir de l'eau sucrée ou de l'eau normale, ils ne prendront plus l'eau sucrée. Donc, ils n'ont plus de plaisir à prendre de l'eau sucrée. Puis, on a des souris qui, elles, vont avoir des comportements tout à fait normaux.
Audrey, on est en train de perdre. Tu sais, il aurait pu faire pire, là. Il aurait pu mettre une moumoute à souris, une moumoute avec les cheveux jaunes puis le teint orange.
Non, mais là...
Avec un drapeau des États-Unis sur sa maison.
Oui, mais moi, j'avais des rats et des hamsters quand j'étais jeune, comme animal de compagnie. Je suis comme, est-ce que ces souris-là, vous les réutilisez pour d'autres tests après ou un coup qui ont comme passé à travers un certain stress, ou, peu importe les études que vous faites, sont comme plus page blanche puis il faut changer de batch?
Bien, souvent, ce qu'on va faire tout de suite après, c'est qu'on va collecter plein de tissus. Donc, puis on maximise parce que nous, on le sait, c'est un privilège là, de travailler avec des vies, même si c'est des souris. Donc, j'ai plusieurs étudiants qui vont travailler sur plusieurs projets avec une même souris. Il y en a qui travaillent sur le microbiome, donc on collecte l'intestin. Il y en a qui travaillent sur le sang. Il y en a qui travaillent sur le cerveau.
Ouais.
Fait qu'on maximise vraiment l'utilisation.
Vous faites quoi après avec?
On collecte le cerveau, on fait des petites tranches de cerveau, on les regarde sur le microscope.
Break, la souris est plus vivante après.
Oui, non. Non,
parce que
rendu là, non.
Si t'enlèves le cerveau, l'estomac...
Non, mais ça, je m'en doute, là. J'allais demander comment, mais je pense que je veux pas savoir.
Mais en fait, pour te rassurer, on fait aussi des choses positives. On lui donne, par exemple, une roue d'exercice. Ça, il adore ça. Je sais pas si vous voulez essayer d'estimer combien une souris ça court dans une nuit. Puis je parle d'une petite souris de 25 grammes, là, une petite affaire. Là. Combien c'est en kilomètres?
Ça doit faire un genre de 10 kilomètres.
Moi, j'ai arrêté vers du 15-20.
Hey, vous êtes bon parce que moi, tout le monde me dit tout le temps 2-3, mais non, 8 à 10 km par nuit.
Ouais. 8 à 10?
Ouais, fait que honte à nous qui avons de la misère à sortir de notre confort.
Non, c'est ça. Hey, t'as glissé que t'étais à New York avant d'arriver à Québec. Moi, ça a été les 6 plus beaux mois de ma vie là, que j'ai passé à New York. J'ai adoré, mais j'étais content de revenir à Québec parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça allait beaucoup, beaucoup trop vite à New York. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, toi?
J'ai fait un postdoc. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Donc, je suis partie de la maison tôt pour aller à l'université à Trois-Rivières, à l'UQTR, baccalauréat, doctorat en biophysique. J'ai fait mon premier postdoc à McGill avec Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef là, du Québec maintenant. Puis, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis allée en industrie, en travaillant en biotech pendant un certain temps. Okay. Puis, je suis revenue puis j'ai fait un dernier postdoc à New York pendant 3 ans.
Ça change une vie, ça, là, New York, là?
Oui, bien, pour être honnête, plus ça allait à partir du Lac-Saint-Jean, plus ça allait, plus ça grossissait. Puis là, on se disait Québec, on va-tu s'ennuyer, les buildings, tout ça. Mais on aime beaucoup la balance travail-vie personnelle à Québec versus à New York, c'était vraiment pas la même dynamique.
Bien, c'est une ville qui ne dort pas.
Oui.
Tu sais, moi, j'y étais au début des années 2000, ouais, puis c'est une ville qui ne dort pas du tout. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis nous, on était à peu près une quinzaine dans un appartement. Là. Fait que rester à l'appartement, tu faisais pas ça. Fait que tu étais tout le temps à l'extérieur.
Oui, c'est pareil pour nous.
Tu travaillais, puis tu allais à l'extérieur.
C'est autre pareil.
Ouais. Puis là-bas, est-ce que vous étiez carrément tout le temps à l'université?
Bien, je travaillais dans un hôpital. Donc, je restais l'autre côté de la rue de l'hôpital parce que c'est super dispendieux rester à New York. Puis je restais dans l'Upper East Side, fait que un des quartiers les plus huppés, là, à deux coins de rue de Central Park. Un des hôpitaux, c'est le meilleur département de neurosciences, là, de recherche sur le cerveau aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé énormément. J'ai beaucoup fait le party aussi. On a profité quand même de notre vie à New York. Ça a été 3 belles années. On a même eu, quand j'étais étudiante graduée, l'opportunité d'aller à Los Angeles pendant 3 mois avec mon chum. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On est parti en auto de Trois-Rivières, puis on est parti en road trip. Puis là, moi, je disais à mes étudiants, dans le temps, on n'avait pas Google Maps. Là, j'ai parti avec un atlas, avec un crayon marqueur.
Oh, c'est hot.
Ouais, j'ai l'air d'un dinosaure.
Il fait-tu la même chose que toi? Il est-tu dans le même domaine?
En informatique, en santé.
Ouais, OK. Ouais. Oh, ouais. Ouais.
Puis est-ce que tu avais des bourses pour New York? Parce que, je veux dire, c'est quand même assez cher. Hein?
Oui, bien, en fait, moi, j'ai eu des bourses presque tout mon parcours universitaire, à part quand j'étais au baccalauréat, à la maîtrise. Mais ensuite, j'étais aussi supportée là, financièrement par mon directeur de recherche là-bas. Ouais.
À New York, est-ce que vous aviez un appart seul ou vous étiez...
Ben nous, le Icahn School of Medicine à Mount Sinai, l'hôpital avait leur résidence, si on veut, pour les gens qui travaillent là. Fait qu'on payait la moitié du coût d'un appartement si on avait été par nous-mêmes.
Ouais, la moitié, c'est à peu près 25 000 par mois.
Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Là.
C'est pas loin de ça. Mettons qu'on mangeait les petits food trucks là, en bas, là, on mangeait souvent là.
Mais comment t'en es venu à avoir l'intérêt de... Parce que là, en passant, on parle avec Caroline Ménard, là, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui est aussi chercheuse au Centre de recherche cerveau. Mais comment t'en viens à dire qu'un jour, tu vas faire ça? Parce que, mettons, moi, je regarde quand j'étais ado, les possibilités, là, j'étais plus dans les affaires claires, là, ambulancière, tu sais, vétérinaire, on est tous passés par là. Et il me semble que, dans ma vie, j'aurais pas eu le réflexe de dire, hey, moi, je vais devenir grande chercheuse sur le stress pour... Tu sais, c'est gros quand même, là.
Ouais, ben moi, je suis universitaire première génération, là. Mes parents sont pas allés à l'université. Puis quand je suis arrivée, j'aimais la science, donc quand j'étais jeune, j'étais club des débrouillards, toutes ces choses-là. Quand je suis arrivée à l'université, biophysique, que j'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas faire médecine, mais j'aimais la chimie, j'aimais la biologie, j'aimais la physique, les mathématiques. Donc, quand je suis arrivée à mon premier cours introduction en biophysique, j'ai vu un professeur d'université qui faisait de la recherche, puis pour moi, ça a été comme une épiphanie. Là. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air le fun, tu voyages, tu formes la prochaine génération de chercheurs. Les journées sont toujours différentes. C'est hyper stimulant intellectuellement parce que la recherche, ça évolue rapidement, c'est toujours nouveau.
Mais tu fais quoi concrètement? C'est une drôle de question, là. Mais moi, tu me dis recherche, puis j'ai l'impression que t'es sur Google, là, puis c'est quoi exactement?
Ben, moi, j'ai fait de la recherche quand j'étais à McGill où je faisais nager des rats dans une piscine. Donc, j'étudiais la mémoire spatiale. Fait que ma mère disait que j'étais un lifeguard pour les rats parce que je les surveillais dans la piscine.
Wow.
Mais maintenant, ce que je dis, c'est que ben, je suis cheerleader pour les recherches de mes étudiants. Donc, c'est les étudiants qui, au jour le jour, font les expériences dans le labo avec les pipettes, les souris, tout ça. Puis, ben, j'essaie de trouver du financement. C'est ça que je fais beaucoup. Et je vends les projets de mes étudiants. Je voyage, puis je travaille. Je dirais pas de temps, mais je voyage énormément. Donc, je voyage, j'ai mon 50K aéroplan là, facile à chaque année.
Ah, c'est très cool, ça. Puis le Centre de recherche cerveau,
oui.
Pourquoi on a créé ce centre de recherche-là spécifiquement?
Oui, faut savoir que le Centre de recherche cerveau, c'est une centaine d'équipes. Ouais. On est 500-600 avec les étudiants, les professionnels de recherche, puis on est un des meilleurs centres de recherche en santé mentale au Canada. On développe des outils, des microscopes, des technologies. On a beaucoup d'étudiants qui finissent dans l'industrie, dans différentes compagnies ici à Québec, et aussi qu'on vend partout à travers le monde. Donc, on a une expertise en neurosciences, particulièrement la recherche sur le cerveau au Canada. On est reconnus, là, on collabore beaucoup avec européen, américain et aussi lab asiatique. Moi, mon laboratoire, j'ai un tiers d'étudiants européens, un tiers d'Amérique du Sud, puis un tiers canadien d'étudiants locaux.
Ah oui?
Ouais.
Puis vous expliquez ça comment?
Bien, il y a beaucoup de gens qui viennent à Québec pour la recherche en santé mentale, mais aussi pour la recherche sur le cerveau en général. On a vraiment une bonne expertise. Puis aussi, bien, moi, j'ai des étudiants qui viennent de plein d'horizons différents. Donc, ça va de médecine, psychologie, jusqu'à ingénierie, microbiologie, neurosciences, sciences biomédicales. Tout le monde arrive avec son bagage. Le projet qu'on a discuté aujourd'hui là, sur les endocannabinoïdes, c'est ma première étudiante au doctorat, Katarzyna, qui est polonaise, qui avait fait une maîtrise à Helsinki, en Finlande, sur la douleur et les endocannabinoïdes. Puis elle a voulu combiner son expertise avec la mienne, qui était sur le stress, la barrière et le système immunitaire. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Donc, moi, je trouve ça super stimulant d'avoir des jeunes qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, puis qui viennent apporter leur expertise ici à Québec.
Ouais. Nous autres, on fait de la radio, dans le fond.
On vous aime, pareil.
On divertit les gens.
Oui, c'est ça, nous autres, c'est ça qu'on fait.
Dans le fond, Caroline, t'es une bolée.
Oui, c'est un peu ça.
Ben, non, j'ai pas tout à eu les meilleures notes, mais j'ai travaillé fort. Puis moi, c'est une des choses que je dis des fois, avoir tout le temps des A+, c'est pas les meilleurs, forcément, les meilleurs étudiants. Les gens qui ont travaillé, parce que la recherche, c'est pas facile. C'est des montagnes russes. On a des hauts hauts, mais on a des bas bas. C'est comme ça, l'article, c'est un haut haut, mais se faire dire non pour une grosse subvention, se faire dire par les évaluateurs que ton projet est pas super intéressant, c'est un bas. Je ramasse des fois les étudiants à petite cuillère.
Mais t'es une passionnée, puis ça se voit.
Ouais, ça oui, ça oui.
Moi, j'ai une dernière question concernant le sujet principal qu'on abordait ce matin, qui était la découverte d'une protéine clé dans la résilience de l'humain face au stress. Souvent, quand on parle de médication pour l'anxiété, pour le stress, la dépression, on parle, veut pas, d'effets secondaires.
Ouais.
Et comment vous vous assurez à travers ce processus-là? J'imagine que pas tout à fait que les souris que vous êtes capable de faire la liste des effets secondaires, là. Mais comment on s'assure de cette liste-là? C'est-tu aussitôt quelqu'un dans un groupe, parce que j'imagine qu'il y a des tests surhumains après, quand c'est...
Ouais.
Est-ce que c'est aussitôt qu'il y a quelque chose qui je sais pas, moi, je fais partie du groupe test, j'ai mal au ventre un soir, il faut absolument que vous notiez ben, mal de ventre, ou il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui reviennent avec le même symptôme. Comment on s'assure d'avoir le moins d'effets secondaires possible?
Bien, il y a différentes étapes. Donc, d'abord, on fait les recherches chez la souris souvent, ou sur les cultures, les cellules en culture. Ensuite, on passe souvent aux primates, donc les primates non humains. Ensuite, on va passer chez des gens qui sont en santé, qui n'ont pas de dépression ou qui n'ont pas la condition là, qu'on essaie de traiter. Puis on va faire ça sur plusieurs milliers de personnes. Donc là, on peut vraiment documenter s'il y a des effets secondaires et on va tout noter, même si c'est une personne sur 10 000, on va le noter. Et ensuite, si c'est sécuritaire, on va passer chez les gens qui ont la condition. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes et beaucoup là, de procédures et c'est très, très bien encadré.
Puis à partir de combien d'années ou de nombre d'études on peut vraiment faire confiance à une médication?
Bien, ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite. Donc, il y a des... Pour les médicaments pour la dépression, le problème qu'on a, c'est que c'est des molécules qui ont été découvertes dans le siècle précédent, dans les années 70-80. On utilise encore des médicaments qui fonctionnent sur les mêmes systèmes, mais on essaie de diminuer les effets secondaires. C'est ça qui a été fait beaucoup. Mais il y a avec les recherches, la collaboration internationale, on a vu que les vaccins pour la COVID, ça s'est fait en quelques années. Mmh. Donc, quand on se met tous ensemble, puis on partage les connaissances, donc pour nous, c'est une des raisons. On met toujours les articles, on paye un peu plus cher, qu'ils soient en science ouverte, donc tout le monde peut avoir accès. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers de dollars ou des centaines de dollars pour avoir accès. Fait qu'on avance la recherche plus vite.
All right. Hey, ça a été un moment super agréable avec toi, Caroline Ménard. Tu es professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche Cerveau. Vous avez découvert une protéine clé dans la résilience face au stress, puis en espérant que cette découverte-là puisse améliorer la qualité de vie des individus à travers la planète.
Merci beaucoup.
Un gros merci d'être passé. 11h06, on fait une courte pause et on vient.
Voici de bien bonnes raisons de vous procurer le Kicks chez Saint-Froid-Nissan et Beauport-Nissan. En ce moment,